Nous sommes lundi. Bonjour, cher Michel.
Bonjour, Yves.
Nous sommes ravis de vous retrouver. Ce matin, vous vous adressez à toutes celles et ceux qui portent des prothèses auditives et qui ont du mal à s'y habituer.
Oui, le problème mérite d'autant plus qu'on se penche dessus que ces patients, au bout d'un moment, en ont ras-le-bol. Ils finissent par laisser tomber leurs prothèses. Ils oublient plus ou moins consciemment de les porter. À l'arrivée, ne jouissent pas du confort d'écoute auquel ils ont pourtant droit. Et c'est dommage, parce que les prothèses sont particulièrement efficaces à condition de s'y habituer et de savoir s'en servir.
Est-ce qu'on peut dire qu'il existe en fait un mode d'emploi des prothèses ?
Oui, croire qu'il suffit de les poser sur l'oreille pour bien entendre, c'est prendre le risque d'être déçu. Alors qu'est-ce qu'elle fait la prothèse ? Elle va amplifier les sons, mais on n'écoute pas seulement avec ses oreilles, on écoute aussi avec son cerveau. Et le cerveau, quand il perçoit de nouveaux sons, il est un peu perdu. Il faut donc lui laisser le temps de s'habituer.
Tous les cerveaux réagissent-ils de la même manière, finalement, face à la nouveauté ?
Non, justement, pas forcément. Les techniques d'imagerie à résonance magnétique, l'IRM, ont permis de démontrer que certains cerveaux ont une capacité d'adaptation plus développée que d'autres. On dit qu'ils jouissent d'une meilleure plasticité. Or, la bonne nouvelle, c'est que cette plasticité, on peut la travailler à la faveur d'une rééducation auditive.
Ça se passe comment ?
Alors, ça se passe sous forme de tests qui permettent de comprendre où ça coince. Parfois, c'est le niveau de compréhension dans le bruit qui pose problème. Parfois, c'est la discrimination entre deux voix pourtant différentes. Mmh. Et de ces tests, va découler un travail qui peut impliquer un orthophoniste ou un ergothérapeute, voire un psy ou une assistante sociale. On va rééduquer, ou plutôt on éduque l'oreille. C'est l'affaire d'une dizaine de séances indispensables pour améliorer son confort de vie, et même plus que ça, parce que ce qui est en jeu, c'est la vie sociale du patient, sa confiance en lui, sa capacité à améliorer ses rapports et ses échanges avec les autres, par le biais de certaines astuces auxquelles on ne pense pas forcément quand on est seul pour affronter le handicap d'une audition défectueuse.
À vous m'intéresser, quel genre d'astuces est-ce que vous avez des exemples ?
Alors, les patients rechignent parfois à informer leur entourage de leur handicap au prétexte qu'il est faible. C'est un mauvais choix. Parfois, dire les choses désamorce les problèmes. Si par exemple, vous demandez à vos proches de ne commencer à parler que lorsque vous pouvez les voir, ce qui permet de lire au besoin sur les lèvres, vous allez réduire les risques d'incompréhension. Si avant d'entamer un dialogue, vous prenez l'habitude de fermer un robinet qui coule, de baisser la radio, de vous éloigner du lave-vaisselle qui ronronne, vous communiquerez forcément mieux. Et puis, il y a le coup du miroir.
C'est quoi le coup du miroir ?
Il y a toujours une pièce dans laquelle vous passez pas mal de temps.
Ouais.
On imagine ici que ce soit votre bureau. Vous équipez cette pièce de manière à voir entrer les gens. Ça va réduire l'effet de surprise, lequel peut être source de stress et vous inciter à fuir la rencontre et l'échange. Mal entendre, on le sait, ça isole et c'est contre cela qu'il faut se prémunir.
Tout cela est passionnant. Merci Michel, à demain.
À demain.